va poursuivre. C'est un moment, c'est voilà, c'est un créneau un peu redoutable pour un orateur que de prendre la parole quelques dizaines de minutes après le repas, encore juste après. Mais en fait, là, on est au moment du, vous voyez, voilà, au niveau de l'hypoglycémie, là, on est le moment le plus bas. Donc c'est redoutable pour moi, mais vous avez bien de la chance d'être à la place qui est la vôtre. Voilà, moi je serai vous. Enfin, en tout cas, quand je suis à votre place, moi je suis très très détendu. Donc voilà, sentez-vous très à l'aise. Et puis pour ceux qui sont encore un peu culpabilisés à l'idée de se laisser aller à la torpeur postprandiale, qu'ils se redisent le verset du psaume 126, Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Moi, en revanche, je prends l'engagement ferme et délibéré de rester éveillé. Voilà. Alors, donc on va poursuivre et certains seront peut-être surpris d'entendre finalement des choses très très proches, enfin des choses, je crois, qui sont d'ailleurs semblables, mais avec des mots différents de ce qu'a dit Laurence ce matin, et pourtant nous ne nous sommes pas concertés. Mais ça dit probablement quelque chose, voilà, du regard que l'on peut porter et la vision très proche sur notre vie intérieure. Donc là, le propos, ça sera effectivement davantage voilà, sur la vie intérieure et avec un focus, hein, c'est un petit peu ce qui m'a été davantage demandé sur la dimension des pratiques méditatives, justement. Alors, je commencerai mon propos. Voilà, sur en tout cas, un constat, une analyse, en tout cas, qui est la mienne, que nous vivons, nous assistons et nous vivons aussi, nous en sommes des acteurs, sinon nous ne serions pas là, un moment important qui est le retour de la vie intérieure. Le retour de la vie intérieure. Voilà. Voilà, une fois qu'on a dit que voilà, il y a beaucoup de choses, justement, qui changent, la transition, etc., enfin, tout ce qu'on a évoqué. En fait, on assiste aussi, et ça, je crois que c'est vraiment important, à une révolution d'intériorité. On parle beaucoup de la révolution du numérique, de la révolution de la mondialisation, enfin, etc. On vit aussi une révolution de l'intériorité. Alors, rapidement, là aussi, c'est un peu le préambule. Qu'est-ce qui permet finalement cette affirmation? Me semble-t-il, deux choses. Ce retour vers l'intériorité, il a deux faces. Une face lumineuse et une phase plus douloureuse. La face lumineuse, c'est ce que j'appelle le développement considérable des pratiques méditatives à confessionnelles. Donc à confessionnelles, donc non confessionnelles. Je pense, ça a été évoqué par Laurence ce matin, je pense évidemment à toutes ces propositions, mais aussi voilà, participation à des retraites dites laïques, et plus seulement des retraites religieuses et dans des monastères ou des abbayes, même si de fait les hôtelleries des monastères et des abbayes sont quand même plutôt bien fournies, mais développement des retraites laïques. Développement des stages de méditation, de pleine conscience, par exemple, ou autre, méditation vipassana, enfin, ainsi de suite. Voilà. Les sessions de silence, les sessions de jeûne, et tout ça sans aucune, c'est ça mon propos, c'est ça qui est nouveau, sans aucune référence, justement, et c'est important dans la proposition, justement, les propositions qui sont faites, c'est qu'il n'y a pas de référence à une tradition, surtout pas la tradition chrétienne, parce que, alors là, surtout, il ne faut pas y aller. Peu de référence à les traditions bouddhistes, c'est essentiellement une approche qui est dite, en tout cas, à confessionnelle. Il me semble qu'on peut voir aussi ce retour vers la vie intérieure, vers finalement des choses qui sont, il faut des modes de vie plus sobres, plus écologiques, plus solidaires, etc. Et puis, je crois aussi quelque chose que à peu près personne n'avait vu venir, et c'est le succès incroyable de toutes les productions autour justement de la méditation et de la vie intérieure, notamment les succès de librairies ou les succès des vidéos, les succès des vidéos YouTube. Il n'y a aucun éditeur, en tout cas en France, qui il y a 20 ans aurait parié un copec, ou un euro plus exactement, sur le fait qu'on tire à des centaines et des centaines de milliers d'exemplaires tous les bouquins sur le développement personnel dans la dimension vie intérieure. Donc les bouquins de Christophe André, de Fabrice Midal, de Frédéric Lenoir, de Mathieu Ricard, enfin ainsi de suite. Il y a 20 ans, personne n'aurait parié ça. Personne. Donc, on voit on a un mouvement de fond que personne n'a vu venir. De mon point de vue, ce qui caractérise finalement cette affaire-là, c'est que ce qui ressort, c'est comme message, c'est se reconnecter au plus profond de soi. C'est souvent comme ça que c'est présenté, et à la fois que les personnes qui, évidemment, voilà, rentrent dans cette expérience, cette pratique, disent, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la reconnexion au plus profond de soi. Voilà. Première chose. Deuxième chose, je l'ai dit, c'est ce qui est intéressant, c'est intéressant dans l'analyse, c'est le caractère aconfessionnel aujourd'hui qu'a pris la vie intérieure. Et puis troisième chose, donc je crois que il y a une révolution. On peut dire, comme le disent certains, que c'est une mode. On peut dire qu'il y a du marketing là-dedans et qu'il y en a qui font leur carrière, leur fortune, etc. là-dessus. Ok, mais s'arrêter là, je pense que c'est une erreur. S'arrêter là, c'est une erreur. Tout ceci me paraît peu contestable, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se joue. Voilà. Et réduire ce mouvement-là qui est en train de prendre à cela, c'est, j'allais dire, passer complètement à côté de ce qui est en train de se jouer de mon point de vue. Peut-être, justement, sur cet aspect aconfessionnel, dire que finalement c'est assez nouveau, puisque pendant des millénaires, et bien avant même d'ailleurs la tradition chrétienne, la méditation, c'était quelque chose qui était relié à une tradition religieuse, en particulier dans les traditions orientales, hein, le bouddhisme, le taoïsme en particulier. Et puis après, ça a été la tradition chrétienne. Mais jusque finalement, dans les années grosso modo 60, les pratiques méditatives étaient associées à des traditions religieuses, essentiellement vécues par des religieux, mais aussi par des laïcs du premier cercle, mais toujours en référence à une tradition religieuse. C'est somme toute dans l'histoire de l'humanité, ces pratiques méditatives, elles existent depuis des millénaires et des millénaires. C'est somme toute de façon très récente que les pratiques méditatives, finalement, sont sorties de leur enclos, de leur sphère, de leur périmètre religieux. Ça date grosso modo des années 60, où finalement la pratique méditative est rentrée dans le champ du développement personnel, ou plutôt le développement personnel s'est approprié les pratiques méditatives en commençant à en couper un petit peu le lien qui pouvait les unir avec la tradition religieuse. Et puis on est rentré dans une troisième phase encore plus récemment, qui date de, en gros, il y a quoi, peut-être une quinzaine d'années, de façon vraiment significative, où là, la méditation est devenue un objet d'étude scientifique. Voilà. Et on trouve plusieurs milliers de publications scientifiques, médicales, majeures, hein, sur, justement, les impacts de la méditation sur le système cardiovasculaire, sur le système cognitif, sur le système immunitaire, sur le système hormonal, sur le sommeil, enfin, ainsi de suite. Donc c'est devenu aujourd'hui véritablement un champ très très important aujourd'hui des neurosciences, hein, qui sont quand même des sciences dures. Donc tout ça pour dire, là aussi, hein, changement d'époque, et que, voilà. Alors, qu'est-ce qui... Ça, c'est, on va dire, semble-t-il, cette face lumineuse, et pour conclure, enfin pas conclure, mais synthétiser sur cette face lumineuse, en fait, qu'est-ce que cherchent nos contemporains dans mon analyse ? C'est donc certainement pas une transcendance ou une religion, puisque ce qui compte, c'est que ce soit prouvé par la science et que ce soit confessionnel. En réalité, ce que cherchent nos contemporains, encore une fois, dans lesquels je me mets, hein, voilà, c'est quelque chose de l'ordre de la sagesse. C'est une sagesse. Et tous les bouquins, justement, de vie intérieure, c'est méditation, sagesse, sagesse, méditation, la sagesse avec un grand S, voilà, etc. Voilà. Et quand... dans toutes ces publications, il est question de Jésus. L'essentiel, pour que ça ait du succès, il ne faut surtout pas que ce soit écrit par un catho, parce que sinon, voilà, c'est Jésus philosophe, ou Jésus un sage, ou Jésus Bouddha, les deux grands sages. C'est cet angle-là où mon propos, hein, n'est pas de porter d'appréciation, de jugement de valeur là-dessus. C'est d'analyser finalement ce qui touche nos contemporains. Et c'est cette dimension de sagesse dont parlait ce matin Laurence. Deuxième facette de ce retour de la vie intérieure, c'est une facette que je qualifierais, voilà, de plus douloureuse. Ce sont toutes les manifestations de la souffrance de l'âme. Ce sont toutes les manifestations de la souffrance de l'âme. Je ne sais pas si c'est pire qu'avant, etc. Chaque siècle a ses difficultés. Et je crois vraiment que celui du XXe siècle a été le pire que toute l'humanité était capable et de produire et de vivre. Donc je ne serai pas dans le discours de « oh là là, qu'est-ce que c'était mieux avant ?» Enfin, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Voilà. Il faut arrêter avec ça. 50 millions de morts côté Mao, 40 millions côté Staline, 40 millions de Deuxième Guerre mondiale, 6 millions de génocide. Je pense que c'était mieux avant. Je pense qu'il faut quand même se calmer un petit peu et avoir un peu de pudeur. Mais il n'empêche que chaque époque a quand même ses difficultés. Et il me semble que là, en ce fin de 20e, début du 21e siècle, les difficultés finalement que rencontre l'homme sont des difficultés dans sa vie intérieure. Quelques exemples rapidement qui pointent vers les souffrances de nos âmes. D'abord, les addictions. Les addictions. Encore dans les années 60-70, 70 surtout, on parlait de toxicomanie. Aujourd'hui, c'est un terme qui a quasiment disparu. Aujourd'hui, on parle d'addiction. Ça n'est pas qu'une évolution langagière pour le plaisir de manier des mots nouveaux. C'est que ça dit des réalités qui sont différentes. La toxicomanie, c'était une toxicomanie à produits, donc à des substances. Et la deuxième chose, c'est que la toxicomanie était réservée à des publics d'exclus. Des gens de la rue, on appelait des toxicos, etc. Voilà. Donc très peu de monde exclu des produits. Les addictions, finalement, donc, 40 ans plus tard, si on parle d'addiction, c'est que l'addiction, elle concerne tout le monde. Et de plus en plus, elle concerne des addictions qui ne sont pas à des produits, mais ce qu'on appelle les addictions comportementales. Et ça, c'est vraiment une révolution majeure. Et c'est un enjeu de santé publique. Je dis bien de santé publique, parce que ceux qui décrivent ça, c'est les sociologues, les philosophes et les psychiatres, qui assistent effectivement, et ils parlent, chacun dans leur terme, d'épidémie. On est à une époque, dans une culture d'épidémie d'addiction. Et j'insiste encore une fois sur l'aspect épidémie, parce que ça n'est pas réservé à une population d'exclus. Les addictions aux écrans, les addictions au travail, les addictions à la cyberpornographie, les addictions aux achats compulsifs, tout ça, c'est justement des gens, des personnes intégrés, qui ont donc souvent une famille, un travail, enfin ainsi de suite. Voilà. Et les chiffres, on n'a pas le temps, c'est une conférence sur les addictions, mais sont effectivement vraiment très, 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 très éloquents. Voilà. Avec toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau cognitif, au niveau conjugal, au niveau familial, au niveau relationnel, ainsi de suite. Voilà. Donc les addictions. On peut penser aussi à tous les syndromes d'hyperactivité, cette difficulté que Laurent soulignait, la difficulté qu'on peut avoir à s'arrêter, à faire des pauses, hyperactivité de projet, hyperactivité de mouvement, etc., qui peuvent aboutir, dans certains cas, jusqu'à un épuisement professionnel, ou d'ailleurs épuisement même en dehors du travail, tellement on est pris dans ces activités. Voilà, une expression burn-out. Difficulté aussi, souffrance au niveau du sens qu'on peut trouver, en tout cas qu'il peut y avoir dans le milieu professionnel. On parle du burn-out, qui est l'épuisement, mais on parle aussi de bore-out ou de burn-out, c'est-à-dire le fait, finalement, d'avoir de plus en plus, effectivement, de personnes qui, en lieu professionnel, soit finalement sont salariés, mais en fait ne font rien, sont dans des placards, ne font rien. Et ce n'est pas un jugement de valeur, c'est finalement l'organisation aussi, aujourd'hui, d'une certaine forme de travail dans certains milieux professionnels, ou bien de faire des tâches qui n'ont strictement aucun sens, et qui, au bout du compte, désespèrent et abîment intérieurement. On peut penser aussi, ça a été évoqué par Laurent ce matin, la prévalence des tentatives de suicide, dans les pays occidentaux, enfin occidentaux, en tout cas occidentaux. Je mets le Japon dans les pays occidentaux, c'est pas l'Occident, on est bien d'accord géographiquement parlant, mais en termes de mode de vie, le Japon étant un des pays les plus prévalents à cet égard. Mais les syndromes dépressifs, les syndromes anxieux, et puis évidemment en corollaire, la dépression, la consommation en psychotropes. On peut penser aux troubles du comportement alimentaire aussi. C'est-à-dire, quel rapport entre les troubles du comportement alimentaire et la vie intérieure ? Je me fie simplement aux publications de l'INSERM, vous savez, l'Institut national supérieur de la recherche médicale, qui est quand même le temple de la recherche médicale en France, qui a priori n'est pas une officine ni du Vatican, une officine très très spirituelle, et qui pour autant définit l'obésité et le surpoids, surpoids-obésité, qui est donc épidémique dans les pays riches et en particulier dans le nôtre, sans qu'on arrive encore à égaler les États-Unis, mais voilà, épidémie en tout cas de surpoids et d'obésité chez nous. Il définit la définition que donne l'INSERM, c'est d'abord une maladie de civilisation, une maladie civilisationnelle. Ça n'est pas une maladie d'abord métabolique, ça n'est pas d'abord la définition qu'il donne. C'est une maladie de nos modes de vie, et en l'occurrence de notre rapport à la nourriture, et de tout ce qui y concourt, etc. Et puis peut-être, dernier point parmi d'autres, de ce qui pointe de combien nos âmes aujourd'hui sont en difficulté, notre vie intérieure est en difficulté, c'est finalement qu'on a été obligé d'inventer un mot il y a quoi ? Il n'y a pas si longtemps, il y a une vingtaine d'années grosso modo, pour essayer de nommer toutes ces souffrances intérieures, c'est le mot de l'expression de souffrance psychique. Donc vous avez peut-être entendu parler ou lu la souffrance psychique. C'est quelque chose, c'est une expression, qui est une dénomination qui est récente, qui date d'il y a une vingtaine d'années. Et pourquoi ? Parce qu'il a bien fallu essayer d'inventer une expression pour nommer des troubles, d'abord chez les jeunes, après on s'en est aperçu que c'était vrai aussi en milieu professionnel, c'est vrai aussi chez les personnes âgées, c'est vrai aussi chez les personnes de la rue, enfin ainsi de suite. Finalement, tout un chacun peut être sujet de cette souffrance psychique. Finalement, pour essayer de nommer tous ces troubles de l'intériorité qui ne rentrent pas stricto sensu dans la définition de troubles psychiatriques, au sens médical pur et dur du terme. Voilà. Donc, voilà, c'est ça que je mets derrière, finalement, ce visage, j'allais dire, souffrant, troublé, déséquilibré, qui pointe vers, justement, notre âme. Face lumineuse, mais face aussi douloureuse. Et c'est ça qui, de mon point de vue, explique ce retour vers l'intériorité. Alors finalement, comment le comprendre ? Comment le comprendre ? Quelques éléments, enfin deux grandes familles, et après j'essaierai aussi d'en dire deux mots. Pour moi, deux éléments d'analyse, de compréhension de ce retour vers l'intériorité. Premièrement, nous vivons à un moment donné, là, à une époque où nous avons des modes de vie de fous. Et modes de vie de fous au sens propre du terme. On a sûrement dit ou entendu dire par des proches ou autour de nous, oh, mais en ce moment, j'ai vraiment une vie de fou, quoi. Voilà. Moi, ça m'est arrivé de le dire, ça m'arrive parfois encore de le dire, j'ai vraiment une vie de fou. Mais il faut l'entendre au sens premier du terme, quoi. On a des vies qui nous rendent fous. Quand on en est à consulter, comme c'est le cas de 40% aujourd'hui des gens qui travaillent en milieu professionnel, 150 fois par heure sont portables. Non, mais c'est nous. C'est nous. Pour vérifier si on n'a pas d'élèves, etc., on devient fou. Quand on n'est pas capable de rester assis pendant quelques secondes sans machin, on est fou. Voilà. Bon, et ainsi de suite. Enfin, c'est toute la problématique des addictions, notamment pour lequel le numérique est quand même un facteur de risque absolument majeur, 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 quoi. Donc, en fait, des modes de vie de fou. Deuxième explication, c'est qui est plus de nature anthropologique, c'est le déni, le fait qu'on évacue totalement notre vie spirituelle, que l'humain a une dimension spirituelle dans sa constitution. Voilà. Donc ce sont pour moi les deux éléments d'analyse particuliers. Je vais essayer de dire quelques mots sur chaque. D'abord, des modes de vie de fou, des modes de vie donc pathogènes, qui nous rendent fous. Plusieurs, ce n'est pas des explications, plusieurs réalités à cela auxquelles il est impossible de se soustraire. Ce n'est pas pour plomber l'ambiance, mais il est impossible de se soustraire à l'environnement dans lequel on vit. Donc mieux vaut en être conscient. Ça sera un tout petit peu moins toxique. Voilà. Mais je ne suis pas plus optimiste que ça. Ça nous rendra un tout petit peu moins, justement, dépendant de l'environnement dans lequel on vit. Cet environnement, c'est quoi ? Je vais le traduire directement en termes de conséquences sur notre vie psychique. 1. La frustration. Nous sommes entretenus en permanence dans une frustration intérieure. C'est l'hyperconsommation, c'est la publicité, c'est le marketing. Il nous faut en permanence quelque chose. Et nous sommes mentalement, je dis bien mentalement, maintenus dans cet état permanent de frustration. On a acheté un truc. Ah non, mais attends, en fait, dans 6 mois, pourquoi tu as acheté ça, en fait ? Dans 6 mois, il y a l'autre qui va sortir. Ben, je l'ai acheté parce qu'en fait, on m'a dit de l'acheter. Ah ben ouais, mais non, mais attends, mais écoute, c'est pas grave, garde-le pendant 6 mois, mais bon, voilà. Et puis, en fait, au 3e mois, on va nous dire, on pouvait déjà le commander par avance, parce que pour être sûr, parce que bien, il y aura une rupture de stock. Mais tout ça, ce n'est pas des mots. Il n'y a qu'à voir, effectivement, à la sortie d'un nouvel iPhone, dès minuit, au Virgin, quand le Virgin existait encore, ou à la FNAC, ou un machin bidule, c'est des émeutes qu'il y a devant. Vous vous rappelez peut-être de ces images qui, moi, m'ont profondément troublé et profondément affecté. Dans les supermarchés, je crois que c'était dans l'Est de la France, si ma mémoire est bonne, où justement, il y avait des promotions sur des produits de base, je crois, des paquets de Nutella, enfin des choses comme ça. On voyait des bagarres pour des produits qui étaient à 1,50€ et qui étaient avec une marge qui passait à 1€. Des bagarres. Donc quand je parle de frustration, ce n'est pas des concepts comme ça. C'est que nous sommes rendus au rang d'animaux. Et quand je dis ça, ce n'est pas du jugement de valeur, évidemment, sur la personne qui est sur la vidéo. Ce n'est pas ça. Mais ce sont ces registres-là, les pires instincts finalement chez nous, qui sont en permanence activés, quoi. De nous rendre frustrés, d'alimenter la frustration psychique chez nous. Et après on dit, ah, quand même la société devient de plus en plus violente, qu'est-ce que les gens sont agressifs? Mais c'est ça dont il est question. C'est ça dont il est question. Deuxième chose, c'est après la frustration, dont on sait l'impact psychique, deuxième chose, c'est que nous vivons en permanence sous injonction paradoxale. L'injonction paradoxale. J'ai entendu quelqu'un qui spontanément a dit oui. Au moins quelqu'un de lucide. L'injonction paradoxale, on le sait tous, et les psys en particulier, c'est ce qui rend fou. On veut rendre quelqu'un fou, on le met sous injonction paradoxale. L'injonction paradoxale, c'est quoi? C'est... voilà, c'est... Attendez, regardez à droite. Non, à gauche. Non, c'est pour ça que je me tournais. Voilà. Regardez à gauche. Voilà, donc en fait, je vous pointe de ce côté-là. D'accord? Donc vos yeux vont là et je vous dis, regardez, donc pour vous, en fait, non, à droite. Donc, non, c'est bien à droite. Voilà, et donc vous allez plus savoir, en fait. Parce qu'en fait, je vais vous donner justement deux instructions qui sont contradictoires. Regardez de ce côté-là, avec ma main, avec mon bras, je vous dis regardez de ce côté-là, et avec mes mots, je vous dis regardez de ce côté-là. C'est ça une injonction paradoxale, d'accord? Et c'est ça qui rend fou, parce que du coup, le cerveau, en fait, il ne sait plus bien, d'accord? C'est ça qu'on dit que l'injonction paradoxale rend fou. On le sait dans les interrogatoires, et le XXe siècle a particulièrement, justement, et notamment sous les dictatures en Parti communiste, on maniait ça d'une façon évidemment extraordinairement efficace. Aujourd'hui, ce ne sont plus les dictatures, en tout cas, plus de la même façon, ce sont effectivement les maîtres du marketing, de la publicité, du numérique et des médias qui sont en permanence là-dessus. Donc, c'est quoi ces injonctions paradoxales? Ça va être, par exemple, faut sauver la planète. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais enfin, moi, du matin au soir, je ne sais même pas que je suis culpabilisé, c'est que je suis mortifié parce qu'il faut sauver la planète. Puis alors, surtout, il ne faut pas se tromper de conteneur. Si je mets ma bouteille en plastique dans le conteneur pour les papiers, alors si je n'ai pas l'amende de ma municipalité dans la demi-seconde, c'est que vraiment, j'ai eu du bol ce matin-là. Mais bon, je vais marcher à genoux pour me faire mal parce que je me suis trompé de conteneur. Évidemment. Mais par contre, effectivement, si je n'ai pas profité de l'offre de EasyJet pour faire Paris-Vienne, Vienne-Paris, Vienne en Autriche, hein, parce que si c'est en France, ça compte pas, 12€ pour faire Paris-Vienne, Vienne-Paris et me faire le week-end super génial où j'aurais explosé mon empreinte écologique en prenant l'avion, ben là par contre, voilà, c'est ça l'injonction. Il faut sauver la planète, surtout, machin, bien, surtout, important. Mais par contre, voilà, on va voyager de tous les côtés, on va dépenser, il faut se déplacer. Et si on ne bouge pas, le bougisme, si on ne bouge pas, on est quand même le dernier. Merci, des derniers. Ça a été juste. C'est un exemple. Et je trouve que sur l'écologie, c'est quand même assez incroyable, quoi. Il faut protéger la planète, mais il faut consommer toujours de plus en plus. Parce que sinon, en fait, si on ne consomme pas, du coup, c'est pas bien. Parce qu'en fait, il n'y a pas de croissance économique. Du coup, pas de croissance chômage. Chômage, c'est ta faute parce que tu n'as pas consommé. Mais par contre, il faut protéger la planète surtout. Ça, c'est vraiment important. Très, très important. Voilà, très important. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, il faut prendre conscience de ça. C'est ça que j'appelle les injonctions paradoxales. Voilà. Troisième élément, semble-t-il, qui est vraiment extrêmement pathogène pour notre vie intérieure, la frustration, l'injonction paradoxale, c'est l'emprise sur laquelle on est de la perte de sens et de la difficulté à essayer de trouver du sens. Et ça, ce qu'il explique, c'est le matérialisme. Le matérialisme, mais qui n'est pas le matérialisme, pour le coup, de l'époque de Marx. Hein. C'est le matérialisme, aujourd'hui, de notre rationalité technoscientifique. C'est-à-dire, le sens d'une vie, et tous les problèmes existentiels ne peuvent être résolus que par la technoscience. Ça correspond à ce que Laurence pointait sur la façon dont nos vies aujourd'hui étaient médicalisées. Je poursuivrai en disant que non seulement elles sont médicalisées, mais elles sont technicisées. C'est-à-dire tout de nos vies aujourd'hui, on nous explique du matin au soir que effectivement c'est la technologie, la technoscience qui va pouvoir résoudre tout ça. Et l'illustration la plus caricaturale de ça, c'est le transhumanisme, dont le projet, encore une fois, n'est pas du tout d'améliorer le quotidien de nos vies, c'est le projet de faire mourir la mort. C'est-à-dire qu'une question qui est existentielle est résolue par la technique. Et donc on a effectivement une croyance. Quand on dit que les gens ne sont plus croyants, ce n'est pas vrai. Les gens sont très croyants. Laurence, ce matin, faisait la liste des dieux. Les stars, les sportifs, la drogue, enfin, ainsi de suite, nos éditorialistes, enfin, etc. Et pour moi, plus que tout, la science, la technoscience est devenue aujourd'hui, pour moi, voilà, le dieu majoritaire dans nos vies. Sauf que ça, quoi qu'on puisse en dire, ne donne pas de sens. Voilà, ne donne pas de sens. Donc, perte de sens. Autre élément, le fait que l'on vive en permanence dans l'instantanéité. Voilà, dans l'instantanéité. Et notre vie intérieure, n'en déplaise à ceux qui veulent nous remplacer par des robots, s'inscrit dans le temps long. Voilà. Le temps de l'intériorité n'est pas le temps du numérique. C'est pour ça que nous n'avons aucune chance de survivre au rythme du numérique si nous ne prenons pas des mesures courageuses et délibérées. Parce que le temps du numérique est bien infiniment plus rapide que le nôtre. Et tous ceux qui veulent nous faire croire que nous sommes capables de tenir le rythme du numérique sont des menteurs et ou des manipulateurs. Voilà. Pardon d'être un peu cash, mais c'est ça la réalité. Le temps de notre cerveau et de notre, encore plus de notre vie spirituelle est celui du temps moyen et du temps long. C'est le temps pour produire du sens, c'est le temps pour produire des valeurs. C'est le temps d'une croissance intérieure. C'est le temps de traverser l'épreuve de la maladie, de l'isolement, mais parfois même aussi des joies, de l'accueil d'un enfant, de sa croissance. Tout ça, c'est du temps long, qu'ils le veulent ou non. Et puis, dernier point, je crois, qui contribue à générer ce déséquilibre intérieur, c'est l'éloignement de la nature. Nature environnementale. Il y a pour moi une analogie très, très, pour le coup signifiante, qui est l'éloignement de la nature environnementale versus l'éloignement de notre nature profonde, de notre nature humaine. Avec les mêmes difficultés, c'est que on s'éloigne par nos modes de vie industrialisés, numériques, etc., de la nature environnementale, et on ne sait plus comment elle fonctionne. On ne sait plus donner le nom aux insectes, aux arbres, aux végétaux, aux plantes, etc. On ne sait plus, voilà. Et il en est de même avec notre nature humaine. On est éloigné, on s'est éloigné de la profondeur, en tout cas des couches profondes, du noyau profond de notre nature humaine, et on n'a plus les mots, on ne sait plus comment elle fonctionne. Si ce n'est en lisant un IRM ou un scanner, en disant ben, « c'est comme ça que tu fonctionnes ». C'est passionnant. Bon. Donc, tout ceci concourt, état de frustration permanent, injonction paradoxale, perte de sens, vie en mode instantané, éloignement de notre nature profonde et notre relation à la nature environnementale. Nous sommes faits de la même pâte. En nous, il y a du minéral. En nous, il y a du végétal. En nous, il y a de l'eau. En nous, il y a de l'animal. Voilà. Mais à partir où on considère que non. Bon. Donc tout ça fait qu'effectivement, nous sommes en train de devenir individuellement et collectivement fous. Fous. Pas au sens psychiatrique du terme, vous sentez bien, au sens de déséquilibre intérieur. Deuxième élément pour moi d'analyse, c'est que donc, on s'ampute d'une partie de notre être. On s'ampute d'une partie de notre être. Donc là, ce sont des considérations qui ne sont pas mode de vie, qui sont des considérations, représentations que nous avons de nous-mêmes. Bon, on ne va pas faire tout un topo là sur l'anthropologie, c'est juste de dire que ce qu'on évoquait rapidement hier soir, que voilà. L'humain dans son intégralité, il a une dimension corporelle, une dimension psychique, l'âme, et puis une dimension spirituelle qui est la vie de l'esprit. Et qu'on est là aussi à un moment de l'histoire où l'humain a toujours cherché qui il est, a toujours essayé de chercher à se représenter qui il est. Voilà, il y a eu la représentation de toute la période de l'Antiquité, de la période chrétienne, la représentation de l'homme classique, de l'homme moderne, et puis maintenant de l'homme postmoderne. Et on est passé progressivement d'un homme à trois dimensions, corps, psychisme, esprit, à un homme à deux dimensions, son corps et son mental, son corps et son psychisme, à de plus en plus ce qui émerge, la vision d'un homme à une dimension. L'homme, en fait, est, l'humain est simplement un organisme biologique comme un autre, au même titre que l'animal et donc au même titre que les robots. Au bout du compte, ça veut dire que notre dimension spirituelle, notre couche profonde, elle est totalement occultée. Elle est occultée dans les mots, elle est occultée dans la façon de l'aborder, elle est immédiatement perçue de façon idéologique, surtout dans notre beau pays France, pays, c'est bien connu, des droits de l'homme est le plus tolérant au monde, ne peut pas supporter effectivement toute mention de vie intérieure, si ce n'est encore une fois dans l'angoisse que ça met en danger le pacte républicain. Donc, en fait, c'est dans ce sens que je dis que notre époque nous ampute d'une partie de notre être, et en l'occurrence, la partie la plus essentielle. Celle par laquelle, finalement, on reçoit la vie, pour le dire d'une façon, quelque part, un peu de parti pris. Celle par laquelle, simplement, celle qui nous rend vivants. C'est un peu comme, souvent cette image qui me vient, je ne sais pas si elle vous parlera, voilà, si je change du 43, je vais rentrer dans une chaussure qui fait du 38, ça va être compliqué, ça va faire mal. Et puis si j'y arrive, ben, j'aurai mal et ça va abîmer la chaussure, et voilà. Donc je crois que ce sont les deux raisons principales. Un des modes de vie de fou, nos habitus, notre praxis, je ne sais pas comment dire, voilà. Et puis la représentation qu'on a de nous-mêmes. Avec cette vision incomplète de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Je pense que déjà, on en prend conscience. Pour la société, ça permet, je pense, quand même, de, peut-être, en tout cas, d'appréhender ce qui est en train de se passer, ce que nous vivons à la fois dans notre pays, sur le plan sociétal, sur le plan éthique, sur l'anthropologique, sur le plan psychique aussi, mais aussi pour soi-même, bien sûr. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en tout cas, moi, je ne sais pas, chacun en fait ce qu'il veut, hein, mais quelque part, je pense qu'on en fait des choses, en tout cas, communes. Et moi, en tout cas, comme je me dis que la tradition chrétienne peut vraiment nous aider, et nous aider individuellement, mais surtout collectivement. Parce qu'elle a des choses à apporter. Je ne dis pas qu'elle a la vérité, je ne dis pas qu'elle résout tous les problèmes. En ce moment, ça serait audacieux de dire ça. Mais en tout cas, elle a plein d'éléments, justement pour servir, comme on disait hier, pour servir la vie. Et donc, où est-ce que la vie est en difficulté en ce moment? C'est, je crois, notamment dans cette dimension de vie intérieure. Voilà. Et dans le fait de faire découvrir à l'homme la complétude de ce qu'il est. Voilà. Donc, elle a des choses à dire dans ces deux dimensions. Dans la dimension anthropologique, c'est un peu ce qu'on disait hier rapidement, donc je n'y reviendrai pas. Hein, tout ce que la tradition peut dire de l'homme en ces trois dimensions, comment est-ce qu'on peut s'aider les uns les autres à mettre des mots sur cette dimension spirituelle, le lieu de notre volonté libre, le lieu de... Voilà, comment est-ce qu'on peut être en relation avec la vie de l'esprit de nos contemporains, avec la sienne propre, etc. Et puis cette thématique de la nouvelle naissance, voilà. Ok, ça c'est la dimension anthropologique, je ne la développe pas. Et puis, celle que je développerai davantage, c'est toute la dimension mode de vie. La dimension, en fait, sagesse. Vous vous rappelez l'analyse qu'on faisait au début, hein, c'est que finalement, ce que cherchent nos contemporains dans toute cette, dans tout ce retour vers la vie intérieure, et en particulier le fait qu'ils se tournent vers les spiritualités orientales, en fait, c'est de la sagesse. C'est une sagesse de vie. Ils veulent réapprendre à vivre. Ils veulent apprendre à vivre. Parce que finalement, qu'on l'analyse ou pas, beaucoup d'entre nous, soit on l'analyse, cette souffrance, soit on vit ce déséquilibre intérieur, soit alors effectivement, bah, intuitivement, on va chercher quelque chose de l'ordre de la sagesse qui va nous aider justement à vivre dans cet environnement qui est profondément pathogène pour notre vie intérieure. Et c'est comme ça que moi j'interprète justement tout ce retour, face lumineuse, vers cette vie intérieure et ces pratiques, voilà, à confessionnelles, méditatives, sobres, enfin ainsi de suite. Voilà. Bon, alors, je pense que l'Église au sens large est passée complètement à côté de tout le trésor que recèle le patrimoine chrétien depuis des siècles, et, à l'exception de vous, mais bah de moi aussi, oh, faut bien rire un peu, est en train de rater justement ce virage. de ce retour de la vie intérieure, hein, que, en tout cas, moi, je considère comme quelque chose de profond. Alors, beaucoup de choses expliquent ça. Je peux juste le mentionner, on pourra y revenir si vous voulez. Je pense que la première chose, c'est qu'il y a dans la tradition de l'Église, comme d'habitude, hein, il y a plusieurs facteurs pour expliquer, de mon point de vue, pourquoi l'Église, enfin, ce qui fait qu'à peu près aucun de nos contemporains n'a le réflexe de dire, tiens, pour ma vie intérieure, je peux peut-être trouver quelque chose pour moi dans la tradition chrétienne. Enfin, sinon, tout le monde ne se tournerait pas justement vers l'Orient. Donc c'est bien quand même que collectivement, on a loupé quelque chose, quoi. Voilà. Et depuis pas mal de temps. La première chose, je pense, qui peut expliquer ça, c'est le fait que dans la tradition chrétienne, à la différence pour le coup de certaines traditions orientales, c'est qu'il y a une méfiance du primat de la méthode sur la grâce. C'est-à-dire que dans la tradition chrétienne, c'est l'Esprit-Saint qui travaille le cœur de l'homme. C'est l'Esprit-Saint qui conduit son peuple. C'est l'Esprit-Saint qui donne la vie. Ça n'est pas une méthode. Donc il y a toujours cette méfiance que, attention à ce que la méthode, finalement, n'étouffe pas la vie de l'Esprit. Voilà. C'est une méfiance. Voilà. La deuxième chose, me semble-t-il, c'est que là aussi, dans la tradition chrétienne, il y a toujours eu la peur du mauvais narcissisme. Mauvais narcissisme, au sens, on dirait, il y a le bon narcissiste, celui qui va me permettre de me structurer, qui va me permettre de m'aimer suffisamment pour pouvoir aimer les autres. Le narcissiste qui va me donner suffisamment confiance en moi pour voilà, commencer à marcher, me lancer dans ma vie, puis la poursuivre, etc., et tenir dans les coups durs, etc. Bon. Et puis, il y a le mauvais narcissisme, qui est de se regarder le nombril, qui est de ne penser qu'à soi, etc. Qui n'est que de discuter avec les gens qui sont d'accord avec moi, comme ça au moins je suis sûr d'être de ces peinards. Enfin bref, tout ce mauvais narcissisme. Les pères du désert et les premiers pères de l'Église disaient que il y a une maladie spirituelle de base qui génère toutes les autres. C'est justement, ils appelaient ça la philotie. La philotie, hein, en grec, c'est le narcissisme. En tant que le narcissisme me tourne vers moi-même plutôt que me tourner vers mon créateur, vers celui qui donne la vie. Donc, il y a toujours eu, pardon de la parenthèse, enfin pas de la parenthèse, du petit détour, pour dire pourquoi effectivement l'Église, la tradition chrétienne depuis toujours, s'est toujours méfiée, là aussi, hein, méfiance du primat de la méthode sur la grâce, méfiance finalement là aussi du narcissisme. Dans quelle mesure, finalement, les pratiques, justement, méditatives me tournent vraiment vers le Seigneur ou est-ce qu'elles ne sont pas en train de me tourner vers mon ego, quoi ? Donc, méfiance. Il me semble qu'il y a toujours aussi une méfiance dans toute la tradition de l'Église qui est la méfiance de la gourouisation. Méfiance de la gourouisation. C'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, alors ça rejoint un peu, hein, là aussi, la doctrine de la grâce, mais c'est un petit peu différent quand même, hein. C'est justement, il existe un seul prêtre, c'est le Christ. Il existe un seul sauveur, c'est le Christ. Donc tous ceux qui attirent la lumière à eux, attention, attention. Cette méfiance, là aussi. En fait, vigilance, je ferais mieux de dire d'ailleurs, pardon, vigilance plutôt que méfiance, parce que méfiance, c'est négatif. C'est plutôt des points de vigilance. C'est l'Esprit-Saint qui agit dans les cœurs, c'est pas une méthode. Voilà. C'est vers le Seigneur qu'il faut se tourner, ce n'est pas vers ton ego. Voilà. C'est vers le seul maître et Seigneur, c'est lui qu'il faut suivre. Ce n'est pas un maître autoproclamé ou un gourou. Il me semble aussi qu'un autre facteur qui explique pourquoi voilà, l'Église a été un peu en retrait, c'est au XVIIe siècle ce qu'on appelait la crise du quiétisme. La crise du quiétisme, hein, vous devez savoir de quoi il s'agit, hein. C'est cette crise où à un moment donné, justement, une femme qui s'appelait Jeanne Guyon, avec Fénelon, ont justement, on va dire quoi, découvert, développé, fait connaître, je ne sais pas comment dire, diffusé quelque chose justement de l'expérience mystique, en disant ben, finalement comment est-ce que je peux être en communion directe avec Dieu justement dans l'oraison. Dans l'oraison, voilà. Donc dans la méditation au sens chrétien du terme. Et ça a suscité, voilà, comme souvent, pour des bonnes et pour des mauvaises raisons, pour des choses justifiées, d'autres probablement, où certains se sont fait leur film, la méfiance de l'Église institution qui ont dit, mais attention, attention, c'est peut-être ça qui positivement est à entendre dans cette crise du quiétisme, attention, parce que ça veut dire que dans ces cas-là, si on développe trop le « je suis en communion, en contact, en relation avec Dieu dans l'oraison », alors, je peux me passer de toutes les médiations de l'Église. Les médiations étant les sacrements, étant la liturgie, étant la parole de Dieu, étant bien sûr aussi les prêtres. Et c'est là ce qu'on appelle la crise du quiétisme. C'est le moment où, à un moment donné, l'institution a dit « Bon, ben, ok, mais enfin, attention, parce que c'est bien d'être, en gros, dans la communion du cœur voilà, et l'intimité cordiale avec Seigneur Jésus, mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y a une église avec tout ce que ça représente de médiation. » Voilà. Et donc, du coup, voilà, Guyon et Fénelon ont été sanctionnés, et ce qu'on a appelé justement le quiétisme, c'est-à-dire le fait de trouver la quies, Q-I-E-S, hein, donc cette paix, qui pour le coup qui est chère à la tradition bénédictine, cette paix intérieure qui correspond à l'hésychia grecque et à toute la tradition hésychaste justement qu'on trouve dans l'église indivise, hein, l'église primitive. Voilà, il y a eu une espèce de méfiance là aussi, mais qui a en tout cas a eu des conséquences, en tout cas dans l'église de France, très importantes, notamment sur l'enseignement, la transmission de la tradition des grands courants mystiques de la tradition chrétienne, ignatien, carmélitain, enfin, ainsi de suite. Il me semble qu'il y a aussi quelque chose qui explique ce virage, d'un point de vue que l'Église a loupé, c'est cette étanchéité que je trouve assez déshumanisante et clivante entre le psy et le spirituel. Alors évidemment, ce n'est pas pareil, et cette anthropologie ternaire montre bien qu'il y a des registres qui sont... Mais en fait, tout ça, c'est quand même des représentations pour nous aider à comprendre une réalité qui, en réalité, que nous sommes un. Enfin, moi, je vois comme si le nombre de personnes qui viennent me voir en disant, ben voilà, moi, j'en ai marre d'aller voir mon accompagnateur spirituel parce qu'il me dit, ah non, mais ça, c'est de la psy, je ne m'en occupe pas. Et ce que je comprends sur un plan intellectuel, et c'est vrai qu'il ne faut pas mélanger les registres, mais dans le vécu subjectif, je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec ça? Un père spirituel, je fais des retraites. Ah non, non, mais ça, c'est du psy, c'est pas moi. Et donc, il y a cette étanchéité. Encore une fois, je ne suis pas là pour faire l'apologie du mélange des genres, c'est pas mon propos, c'est juste pour essayer de mettre des mots que je sens bien, peut-être maladroits, mais sur le fait qu'on ne peut pas non plus, si on ne peut pas mélanger les choses, on ne peut pas non plus couper les gens en morceaux. Et du matin au soir, dire qu'il y a une anthropologie très, très unifiante dans l'intégralité des trois dimensions de la personne. Quand finalement, après, on va voir un prêtre ou un accompagnateur ou une religieuse accompagnatrice qui, ou même un laïc accompagnateur, c'est pas une question de statut, qui dit « Ah non, non, mais moi, ça, c'est de la psy, je m'en occupe pas. » C'est compliqué, c'est compliqué. Donc là, on voit bien qu'il y a une tension, finalement, qui n'est pas si simple que ça à assumer dans la vraie vie. Voilà. Et puis, dernier point, me semble-t-il, qui explique aussi cette difficulté que l'Église peut avoir avec la vie intérieure, voilà. C'est comme il y a cette opposition, moi je trouve un peu artificielle, entre le psy et le spi, c'est l'opposition entre le bien-être et le salut. Le salut avec un grand S. Évidemment, de la même façon, ce n'est pas du tout la même chose, le bien-être et le salut. Mais de mon point de vue, c'est compliqué à une époque où justement toute la dynamique du développement personnel amène la recherche du bien-être, etc. Et que l'Église... Beaucoup, c'est comme ça que sa parole est perçue. Ah non, mais le bien-être, c'est nul. Hein. Franchement, non, mais le bien-être, il ne faut pas y aller parce que vous comprenez, salut, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Mais encore une fois, qui a envie de vivre le mal-être? Non, mais pardon, et encore une fois, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Enfin, je pense que si on est entre nous, c'est aussi pour se dire des choses et parler. Mais on ne peut pas non plus avoir un discours en permanence qui renvoie les gens dans leur but, alors qu'il cherche quelque chose qui, finalement, est légitime. Donc, dire ça, pour moi, ce n'est pas mettre au même plan le bien-être et le salut. Mais comment est-ce qu'on veut conduire, accompagner, finalement, quelqu'un vers le salut, si déjà, quand il dit bah, « moi, je cherche le bien-être », on lui dit « non, mais tu comprends, c'est un peu nul ton truc, c'est superficiel ». Là aussi, l'anthropologie peut nous aider, corps, psychisme, esprit, être chrétien. C'est pas être dans la composante esprit. Ça, c'est pas chrétien. Être chrétien, c'est embrasser toutes les dimensions. Toutes les dimensions. Et c'est peut-être donner du sens à ce bien-être. Donner du sens, voilà. Et faire cheminer la personne. C'est quoi, en fait, ta recherche de bien-être? C'est le corps, c'est le psychisme, c'est l'émotion. Ouais, ben super. Mais ben, tant qu'à être là, ben, si on continue encore un petit peu plus loin. Surtout que le bien-être, tu pourras peut-être pas toute ta vie être dans le bien-être. À un moment donné, voilà, quand tu seras dans l'épreuve, dans la difficulté, il y aura peut-être d'autres choses, quoi. Voilà. Et il se passera quoi? Bon, voilà. Donc, il me semble que En tout cas, moi, c'est ce que j'entends, la façon dont, en tout cas, est perçu le message de l'Église, de toute façon, voilà, le salut, on sait pas, en fait, on s'en fout du salut, quoi. Enfin, ce qu'on veut, c'est être bien. On veut cette sagesse, on veut réapprendre à vivre. Donc tout ça, quelques éléments, là aussi, tout à fait discutables, hein. En tout cas, c'est mon analyse que je vous partage, sur pourquoi, finalement, nos contemporains, me semble-t-il, ne vont pas d'abord chercher dans le patrimoine chrétien quelque chose pour leur vie intérieure. Et c'est dommage. Et c'est là où nous avons une responsabilité majeure. Nous qui, et je le suppose, sinon nous ne serions pas là, avons fait l'expérience qu'il y a dans la tradition chrétienne de quoi, à la fois, nous aider, j'allais dire, sur le plan du bien-être au sens de l'équilibre psychique, mais encore plus profondément nous amener vers un chemin de salut qui est justement un chemin de vie qui peut se développer et croître en nous. Pas simplement narcissiquement pour que je sois mieux, mais encore une fois, dans une dynamique chrétienne, si je reçois moi-même la vie, si elle se déploie en moi, c'est de toute façon pour être justement donnée, transmise, etc., et soutenir les autres, enfin, ainsi de suite. Voilà. Alors, du coup, il me semble que là, ceux qui peuvent nous aider, quand on dit la tradition de l'Église, etc., c'est effectivement le christianisme primitif. En tout cas, les christianismes des premiers siècles. En tout cas, moi, je me suis tourné vers les pères du désert et les premiers pères de l'Église pour essayer d'avancer sur cette affaire-là, sur cette affaire de sagesse. Et autant, vous voyez, par exemple, hier, on parlait d'à quoi sert un chrétien, et le petit bouquin jaune, etc., qui était un bouquin confessionnel et qui faisait l'apologie de la promotion de la résurrection du Christ. Autant, là, le bouquin « Prenez soin de votre âme » est plutôt un bouquin qui montre en quoi le christianisme, c'est une confession de foi, mais c'est aussi une sagesse de vie. C'est aussi une sagesse de vie. Et cette sagesse de vie, les pères du désert sont, à cet égard, extrêmement éclairants. Ils nous disent qu'ils nous donnent les chemins pour, justement, avoir une vie plus sage au sens qui a plus de goût, qui a plus de saveur, comme nous le rappelait étymologiquement Laurence ce matin. Une vie sage, c'est une vie qui a du goût. Ce n'est pas une vie où on s'ennuie, pour ne pas dire autre chose. C'est une vie qui a du goût. Et une vie qui a du goût, qu'est-ce que nous disent les pères? Ils nous disent, un, l'ouverture à l'autre. L'ouverture à l'autre. L'exercice de la charité, etc., la miséricorde, ce n'est pas d'abord un devoir moral. Ce n'est pas seulement pour s'identifier au Christ souffrant ou au Christ serviteur, c'est aussi parce que nous sommes faits pour ça. Nous sommes faits pour nous ouvrir à l'autre. Et il n'est que de peut-être se remettre en contact avec une expérience que on a fait personnellement ou on a été témoin de ceux qui l'ont fait, que quand on se sent utile, quand on rend service, ben on se sent mieux que quand on a le sentiment d'être totalement inutile. Ça n'est pas superficiel, ça dit quelque chose de notre cœur profond, c'est que nous sommes faits, de fait, pour s'ouvrir à l'autre. Nous sommes faits pour cela. Le devoir moral, j'allais dire, c'est quelque chose qui veut dire, anthropologiquement, nous sommes faits pour ça. Donc, ils insistaient beaucoup sur le premier mouvement pour l'équilibre intérieur, pour une sagesse de vie, c'est l'ouverture à l'autre. Et ça, effectivement, cette vigilance que la tradition chrétienne apporte sur attention au narcissisme me paraît essentielle, parce que, en effet, dans ce développement, cet essor des pratiques méditatives, encore une fois, que moi je trouve sur le fond très, très intéressante, très positive, en même temps, si on ne fait que méditer, on risque, en tout cas, il y a un risque pour que ça puisse être un petit peu narcissisant. Et c'est là où la proposition chrétienne, elle est intéressante, parce que c'est un pack. C'est comme les trois cercles que j'ai tout à l'heure. On ne choisit pas celui qu'on veut en fonction de son goût ou de son étape de vie. De la même façon, ce que nous proposent les pères, c'est en premier l'ouverture à l'autre. Voilà. Ça, c'est première chose pour son équilibre psychique intérieur. L'ouverture à l'autre, le service. Et il disait, la santé de l'âme, c'est l'exercice de la bonté. La santé de l'âme, c'est l'exercice de la bonté. Parce que les pères du désert, je n'ai pas le temps de développer là, mais tous leurs propos, c'était avec des termes médicaux. Ils parlaient de maladies d'origine spirituelle, ils parlaient de prophylaxie, ils parlaient de santé spirituelle, de santé intégrale. Aujourd'hui, un chrétien, il parle de santé spirituelle, on va dire « Oh là là, alors lui, il est bouddhiste, il est ésotérique, oh, pas bien. » Ouais, moi je veux bien, enfin, sauf que les premiers pères de l'Église et les pères du désert, ils parlaient de santé spirituelle, et ça ne les gênait pas. Voilà. Donc, il y a bien une santé intérieure. Donc, voilà, la santé de l'âme, c'est l'exercice de la bonté. Il y a plein d'autres apophthegmes, mais en particulier celui-ci. La deuxième chose que les pères nous prescrivent, j'allais dire, c'est donc la sobriété. La sobriété. Donc, un, l'ouverture à l'autre. Deuxièmement, la sobriété. Troisièmement, les pratiques méditatives. Donc, deuxièmement, la sobriété. Alors, la sobriété, aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas très glamour, parce que, compte tenu de l'emprise, justement, du marketing, de l'hyperconsommation, etc., et de la culpabilité à ne pas consommer, et le fait qu'on soit en permanence sollicité, justement, dans le désir de consommation, de possession, machin, milieu, la sobriété, c'est vécu et c'est vendu comme privation. Alors, on est privé. Et donc, là, vraiment, il y en a qui vous veulent du mal, parce que, voilà, on veut... C'est vécu comme la privation. Or, en fait, pas du tout. La sobriété, c'est vraiment une question d'hygiène intérieure. Le synonyme de la sobriété, pour moi, aujourd'hui, c'est la dépollution. La dépollution. On n'arrête pas, là aussi, de parler de dépollution environnementale, alors qu'on nous pousse du matin au soir à bouger, à voyager, à consommer et à produire des déchets à n'en pas finir. Voilà. Mais, en fait, la première dépollution qu'il s'agit d'opérer, c'est la dépollution de notre nature humaine, donc de notre intériorité. Et là, les pères du désert disent, justement, tu es le portier de ton cœur. Tu es le portier de ton cœur. À toi de choisir ce qui rentre ou pas dans ton intériorité. C'est ça l'objectif de la sobriété. C'est la juste mesure. C'est pas, quoi qu'on en dise, ni se priver, donc c'est pas des extrêmes, au sens de se priver de façon extraordinaire, et en même temps, c'est ne pas faire n'importe quoi. Donc, c'est la juste mesure. Et cette juste mesure, les pères du désert en témoignent de façon très claire dans leur vie quotidienne, c'est la juste mesure dans les habits, c'est la juste mesure dans l'alimentation. On se nourrit, on s'alimente pour se nourrir en fonction de l'effort physique que j'ai à faire. Donc, le moine qui allait travailler au champ toute la sainte journée, ou alors celui qui restait, par contre, dans le monastère, ils n'avaient pas la même charge physique, donc ils ne mangeaient pas la même chose. Donc, se nourrir au regard de ses besoins physiques, et puis se soigner. Voilà. La juste mesure du travail. Laurence rappelait, dans le rythme bénédictin en particulier, l'importance justement des rythmes. Et même si on est très occupé, on s'arrête. La cloche sonne, on s'arrête et on va à l'office. Où on s'arrête et on va au chapitre, ainsi de suite. Voilà. Donc le travail, il a des fonctions. Le travail, il a comme fonction de faire que je ne sois pas à la charge de la communauté, en tout cas le moins possible. Le fait que je ne sois pas... ça m'occupe mentalement et que je ne sois pas à faire le petit vélo, etc. Et on sait, pour ceux d'entre nous qui ont connu des périodes d'inactivité professionnelle, que c'est compliqué de rester à la surface de l'eau quand on n'est pas occupé. Donc il y avait cette dimension-là aussi pour les pères. Et troisième dimension au travail, le fait de, si je travaille, c'est aussi pour pouvoir gagner un peu d'argent, pour pouvoir le donner aux pauvres. C'est la part du pauvre. C'est beau, hein ? Moi, je trouve super beau. Vraiment. Enfin, et inspirant, et puis bousculant aussi. Enfin, c'est qu'est-ce que je fais de mon patrimoine ? Qu'est-ce que je fais de mon salaire ? Qu'est-ce que je fais de mon temps ? Enfin, voilà. Ça fait partie. C'était les trois choses. Bref, la juste mesure. Et donc, la question à se poser dans cette affaire de sobriété, c'est de quoi est-ce que j'ai à être sobre aujourd'hui ? Et donc, ça veut dire identifier ce que moi, j'appelle, dans mon langage à moi, dans ma petite tête, les PDI, les perturbateurs de l'intériorité. PDI, perturbateurs de l'intériorité. Là aussi, analogiquement aux perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire, on parle beaucoup de perturbateurs endocriniens. C'est ces molécules qui sont invisibles, insensibles, qui sont dans notre environnement extérieur, que l'on absorbe par la nourriture, par la boisson, par l'inhalation, par les textiles, enfin voilà, contact sur notre peau, qui rentrent dans notre métabolisme, qui déséquilibre, qui modifie notre métabolisme, parfois sans que ça n'ait de conséquences, parfois ça a des conséquences, produisant des maladies, et parfois des maladies graves. C'est ça les perturbateurs endocriniens, qui viennent modifier notre intimité biologique. Il existe finalement des perturbateurs de l'intériorité, qui sont invisibles, insensibles, qui rentrent dans notre intimité, non pas biologique, mais notre intimité psychique, intérieure, qui viennent en modifier l'équilibre et possiblement aussi amener des maladies de l'intériorité. Analogie, encore une fois, pour moi, très signifiante. Après, une fois qu'on a dit ça, bah, du coup, là, ça devient à la fois plus, voilà, enfin, plus personnel. C'est, bah, du coup, c'est quoi, moi, mes PDI? On n'a pas tous les mêmes PDI, parce qu'on n'a pas le même âge, on n'a pas le même caractère, on n'a pas la même vie, on n'a pas, etc. Donc, perso, c'est quoi mes PDI? Et ça, c'est vraiment, pour le coup, ça peut être notamment pour période de carême dans laquelle, là, nous sommes rentrés, ça peut être vraiment intéressant. C'est quoi, moi, mes perturbateurs de l'intériorité? Alors, évidemment, voilà, c'est le bruit, c'est la tête, c'est machin. Bon, c'est la vitesse. Trois familles de PDI, si ça peut nous aider. Trois familles de PDI, de perturbateurs. Il me semble qu'on peut chercher peut-être des choses, des PDI, dans la famille, que moi, je mets dans la famille, hyper numérique, hyper consommation. Donc, hyper consommation matérielle et hyper consommation numérique. Voilà. Ça, pour moi, c'est une première famille de perturbateurs de l'intériorité. Et donc, ça peut amener à se dire, ou pas d'ailleurs, hein, c'est vraiment à chacun dans le secret de son cœur et la lumière de son discernement. Voilà, parce que l'enjeu de cette affaire de sobriété, c'est un enjeu de liberté. Si c'est plus clair, formulé autrement, c'est sous l'emprise de quoi et de qui je vis. Sous l'emprise de quoi et de qui je vis. On nous parle du matin au soir de l'emprise, et c'est juste. Mais on ne nous pointe jamais l'emprise essentielle sous laquelle on est, qui est celle que je décrivais rapidement, voilà, du numérique, de la frustration, de machin, de bidule. Sous l'emprise de quoi je vis. Le but étant non pas d'y échapper, parce qu'on ne peut pas y échapper, mais d'y être un tout petit peu moins sujet. Donc, peut-être que j'ai à gagner en liberté, j'ai à être peut-être moins sous l'emprise de certaines hyperconsommations matérielles, je ne sais pas. Peut-être aussi de l'hyperconsommation numérique. Et donc, dans ces cas-là, peut-être deux pistes, se donner les moyens de ce que j'appelle du répit numérique. Le répit numérique, il peut être spatial ou temporel. Le répit numérique spatial, c'est que je sanctuarise des lieux physique dans ma vie, dans lequel qui résiste à l'invasion numérique. Je parle d'invasion numérique. Histoire de mettre tout le monde très à l'aise. Combien y a-t-il de mètres carrés dans ma maison dans lequel il n'y a pas une pièce, un outil numérique? Un ordinateur portable, une tablette, un gros ordinateur et bien sûr mon fidèle smartphone. Combien de pièces dans ma maison ne sont pas envahies, occupées par le numérique? Chacun, voilà, voilà, c'est juste là aussi, c'est pour. Voilà. Et donc, le répit numérique spatial, c'est peut-être se dire il y a peut-être au moins un espace, quelques mètres carrés chez moi, que je sanctuarise, qui sont vierges du numérique. Je prends l'exemple du domicile, voilà, mais voilà. Comment je sanctuarise quelques mètres carrés qui échappent à cette dictature et à cette invasion du numérique? Le répit numérique, il peut être chronologique aussi. Combien de minutes dans la journée, ça peut paraître peu, mais enfin dans la vraie vie, quand on voit qu'il y a exactement plus de 60% des Français qui vivent avec, dans la table de nuit, qui dorment, pardon, sur la table de nuit, le portable branché, enfin connecté, 60%. Ça fait du monde parmi nous. Hein. Donc ça veut dire que c'est compliqué. Comme disait Laurence ce matin, pourquoi c'est si compliqué de s'arrêter 15 minutes, de méditer 15 minutes le matin, 15 minutes le soir? Qu'est-ce que c'est compliqué? Quel répit numérique je m'accorde chronologiquement, temporellement? Donc combien de minutes par jour je m'accorde à moi de répit où je ne suis pas connecté? Ça peut être chez soi, ça peut être aussi au travail. Mais à chacun de voir et de partir surtout de sa vie réelle. Si je n'arrive même pas à me déconnecter une minute, ça ne sert à rien de me dire que pendant le carême, je vais me déconnecter une demi-journée. Il faut être réaliste. D'accord ? Donc, hyperconsommation matérielle, hyperconsommation numérique. Après, il me semble qu'il y a peut-être une deuxième famille de PDI, encore une fois, sur lequel s'interroger. Hein. On n'est pas obligé d'être non plus sous l'emprise de tout le temps. D'accord ? Mais c'est tout ce qui est hyper-mouvement, hyper-projet. En gros, tout ce qui est de l'ordre de l'activité. Tout ce qui est de l'ordre de l'activité. Alors, je bouge, je me fais le week-end bidule, je vais faire ci, je vais faire ça, ta, 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 voilà. Enfin, en gros, j'arrête jamais. Et puis, en fait, bon, bah, évidemment, je suis sollicité. Non, puis bon, enfin, c'est, oh, je peux pas tout le temps dire non. Bon, donc, autant dire oui tout le temps, en fait, hein, parce que bon, comme ça, au moins, bon, voilà. Non, surtout que c'est pour la bonne cause, vous comprenez, bon, tout ça, bon, voilà. On voit bien que c'est l'hyperactivité sous l'emprise de laquelle peut-être que certains d'entre nous nous trouvons. Est-ce que je réponds vraiment librement à toutes ces sollicitations? Si c'est oui, ben y a pas de sujet. J'interroge juste, est-ce que je suis vraiment tout le temps libre dans la réponse que je fais à toutes ces hypersollicitations de mouvements, d'activités, de projets? Ceux qui sont les plus à risque dans cette hyperactivité, ce sont ceux qui viennent d'être en retraite. Alors là, c'est les pires. C'est ceux qui sont les plus à risque. Parce qu'alors là, on leur tombe dessus. On leur tombe dessus et là c'est compliqué. Et là c'est compliqué. Voilà. Alors je dis ça, moi du coup j'ai pas du tout envie d'être à la retraite. Quand je vois le truc c'est compliqué. Mais vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois le sujet c'est sous l'emprise de quoi je suis. Et les pères là-dessus, les pères du désert, hein, moi je le formule de façon contemporaine, mais les pères du désert c'était ça leur point de discernement. Hein? Il y a des relations qui, sous prétexte d'être caritatives, solidaires, machin, bidule, au bout du compte, finalement, voilà, m'entraînent en dehors de moi-même, font perdre ma liberté, enfin, ainsi de suite. Voilà. Et troisième famille de PDI, et là aussi les pères insistent beaucoup là-dessus, c'est peut-être que j'ai à être moins sous l'emprise de mon cinéma intérieur, de mon petit vélo, de tout ce que je me raconte. Alors, vous voyez, dans cette typologie hein, que j'essaye de décrire, vous sentez, enfin je l'espère, en tout cas, c'est des registres différents. Et les pères du désert, là-dessus, sont de redoutables psychologues, au sens, enfin, en tout cas connaisseurs de l'âme, quoi. Tous ces cinémas intérieurs que je me fais, quoi. Alors qu'ils peuvent être dans tous les sens, hein. Ça peut être dans le bon, ben voilà, non, mais c'est vrai que bon, là. Bon, là, il faut que je progresse là-dessus, parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai déjà pas mal progressé au dernier carême, je me rappelle, j'étais là-dessus, bon, mais là, je crois qu'il faut que je progresse. Mais je suis déjà quand même pas mal mauvais là-dessus, mais bon, tout ça, mais bon, je vais le garder pour moi, ça fait un peu prétentieux, mais quand même, c'est une affaire entre le bon Dieu et moi, mais je pense que le bon Dieu a plutôt une bonne opinion de moi-même en ce moment. Bon voilà, après, sinon, il y a la version plutôt déprimante, c'est ouais, de toute façon, enfin, quand on voit ma vie, enfin, honnêtement, ma vie est un échec. Hein. Ma vie est un échec, les gens ne se rendent pas compte, les gens ne se rendent pas compte, mais ma vie est quand même une succession d'échecs. Donc, je ne vois pas pourquoi je ferais des efforts, parce que de toute façon, je vais encore échouer. Alors, si c'est pour encore échouer, et si de moins échouer, de toute façon, je veux dire, autant arrêter tout de suite. Et bah d'ailleurs, enfin moi je crois que je vais arrêter parce que là, franchement. Puis de toute façon, tout le monde me le dit en plus que je suis complètement nul. Enfin, d'ailleurs, bon, c'est pour ça que je suis seul parce que bon, voilà, enfin, etc. Enfin, non, je suis pas, c'est vrai, je suis pas seul, mais je comprends pas d'ailleurs les gens qui restent encore en relation avec moi parce que moi je serai à leur place. Je me fréquenterai même plus, hein, franchement. Bon, mais enfin, bref, vous voyez un peu ce que je veux dire? Ouais? Voilà. Alors, c'est ça le cinéma intérieur. Et les pères du désert, ils disent, voilà, là, on arrête tout de suite, là. On arrête tout de suite. Peut-être que j'ai à être sobre de ça, sobre de mes cinémas intérieurs. Ce qu'ils appelaient les pensées, les logismoi en grec. Logismoi, ce n'est pas la pensée rationnelle. C'est tout ce qui me passe par la tête. C'est mes images de moi, c'est mes représentations, c'est mes ruminations, c'est mon anticipation, c'est tout mon truc d'organisation. Enfin, tout ce qui me passe par la tête quand je me mets à méditer. Ah, je suis pas seul là. Je suis pas seul là. Très très bien. Là, je suis content d'être avec vous là. Comme ça, voilà. C'est tout ça les pensées. Et peut-être que j'ai à être sobre de ça. Et ça, c'est vraiment typiquement des perturbateurs de l'intériorité. Typiquement, c'est ça un perturbateur. Donc peut-être, voilà. Donc un, l'ouverture aux autres. Deux, la sobriété en tant que dépollution. Dépollution de quoi? De tout ça. Ça ne veut pas dire que. Enfin voilà, bon, sinon il faut que j'avance parce qu'il est déjà l'heure est déjà passée. Hein. Oui, bon. Oui, l'heure est déjà passée, donc je me dépêche. Troisième point, c'est voilà, je sais pas si on voilà. Troisième point, c'est donc les pratiques méditatives. Le troisième chemin que les pères nous indiquent comme un chemin de vie, comme un chemin de croissance, comme un chemin d'équilibre intérieur dans toutes les dimensions. Ce sont les pratiques méditatives. Alors, deux choses là-dessus. Première chose, et vraiment j'ai souri, avec beaucoup de joie en entendant ce matin Laurence qui parlait de l'attention. Et il a dit que l'attention, si j'ai bien suivi en tout cas, était comme un muscle. Oui, on a entendu la même chose. En fait, c'est vraiment rigolo parce que je n'avais pas entendu Laurence en ces termes jusque-là. Et moi, je dis la chose suivante, c'est que le système locomoteur a des organes qui sont, par exemple, nos jambes. Le système cardio-respiratoire a son organe principal, le cœur. Notre système nerveux a un organe principal qui est donc le cerveau. Et notre vie spirituelle a un organe qui est l'attention. L'attention. Notre vie spirituelle a un organe. Alors ça peut paraître un peu contre-intuitif, parce qu'on va dire justement c'est immatériel, etc. Mais en fait, pas du tout. Et donc ça, absolument essentiel. Absolument essentiel. Pourquoi ? Parce que, confère ce qu'on disait dans une partie antérieure de notre propos, soyons conscients avec gravité que nous vivons une époque de hold-up attentionnel. Notre attention, on nous la pique, on nous la vole, on nous la brise, on nous la casse. Voilà. Pour rester poli. Et je dis pour rester poli parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement violent. Parce que l'attention, c'est ce qui fait de nous des humains. Et c'est pour ça, de mon point de vue, qu'il y a autant de développement, justement, d'entre nous qui fonctionnons en mode uniquement réactionnel, dans la colère, dans l'agressivité, dans la pulsion, dans la frustration. C'est que, finalement, l'organe de notre vie intérieure qui fait de nous des humains, c'est l'attention. Pour moi, l'attention est aux humains ce que l'instinct est aux animaux. L'instinct, c'est ce qui permet à l'animal de survivre. L'attention, c'est ce qui permet à l'humain de devenir humain. C'est dans ce sens où je dis que l'attention est aux humains ce que l'instinct est à l'animal. Pas d'attention, pas de vie humaine, au sens humanisé et humanisé pour soi et humanisante pour les autres. Et donc tout ce que j'évoquais justement, les PDI, la frustration, l'injonction paroxale, etc. Enfin, tout ce qui est au bout du compte qu'on veut nous faire croire comme étant bien pour nous, enfin, ainsi de suite, en réalité, on nous enlève ce qui fait notre humanité, ce qui nous fait devenir humains. Donc en réalité, la seule vraie révolution, ce n'est pas la révolution numérique. Ce n'est pas vrai. La seule vraie révolution qui vaille, c'est la révolution de l'attention. C'est la révolution de l'attention. Et là, il faut reprendre le contrôle. Il faut reprendre le contrôle. Souvent, on nous dit, mais non, mais il faut lâcher prise. Oh, t'es pas dans le lâcher prise. T'es pas dans le lâcher prise. Pardon ? Le lâcher prise ? Ah ben, complètement. Complètement, voilà. Il faut lâcher prise. Mon interprétation, il faut lâcher prise pour qu'on puisse nous piquer encore plus facilement notre attention. En réalité. Et moi, je suis convaincu qu'il faut reprendre le contrôle de notre attention. Qu'est-ce que je fais de mon attention ? Vers quoi je tourne mon attention ? Vers qui je tourne mon attention ? Mais si aujourd'hui, je ne reprends pas le contrôle de mon attention, d'autres prennent le contrôle de mon attention du matin au soir et me dictent quand est-ce que je dois pleurer, quand est-ce que je dois rire, ce que je dois penser, ce pourquoi je dois m'émouvoir, quand est-ce que je dois me mettre en colère, etc., etc. Enfin, nos éditorialistes, nos réseaux sociaux, nos journalistes, nos gérants numériques, etc., qui nous disent du matin au soir tous les champs de la vie, tous nos champs de la vie. Vous voulez survivre, reprenez le contrôle de votre attention. Mais c'est grave. C'est grave. Au sens, c'est notre humanité qui est en jeu. Sinon, notre humanité va fonctionner uniquement sur son mode animalité. Les pulsions. dans ce que ça a, et l'histoire le montre très rapidement, de pire. La seule voie d'humanisation, aujourd'hui au XXIe siècle, c'est la reprise en main personnelle de notre attention. Et donc ça, c'était le premier point, pour ça, évidemment, la voie royale, ce sont les pratiques méditatives. Ce sont les pratiques méditatives. Deux aspects dans mon propos sur les pratiques méditatives. Un aspect, un aspect aconfessionnel. Deuxième partie de mon propos qui sera une dimension confessionnelle. Vous vous rappelez cette tripartition dans l'anthropologie chrétienne ? Encore une fois, je ne fais pas un absolu, mais ça aide à mettre des mots, ça aide à comprendre, etc. Voilà. Ça aide à réfléchir. Il me semble que la méditation aconfessionnelle, celle aujourd'hui qui attire de plus en plus de nos contemporains, elle mobilise et elle s'adresse, les deux, elle mobilise et elle s'adresse à la dimension corps et à la dimension psychique. C'est une méthode, c'est aussi un mode de vie pour certains qui mobilise les registres psychophysiques de notre humanité. Donc moi, quand j'entends notamment des gens dans l'Église qui disent « Ouais, c'est complètement nul, la méditation de pleine conscience, c'est pas de la prière. » J'avoue que ça me laisse interdit, pour pas dire autre chose. En réalité, dire « Ouais, c'est nul, c'est pas chrétien, c'est pas de la prière. » Ben, c'est ça qui, en fait, qui est nul, c'est de dire ça. Parce qu'encore une fois, dans une perspective chrétienne, c'est l'unité de la personne dans ses trois dimensions qui compte. Donc, embrasser déjà la première et deuxième dimension, enfin le corps et le psychisme, c'est déjà formidable. Si l'Église était si claire avec les propositions qu'elle fait là-dessus, je pense que ça se saurait. Et que autant nos contemporains ne se tourneraient justement pas vers des choses aconfessionnelles et ou de spiritualité orientale. Donc, moi, ce que je comprends justement de cette appétence pour les méditations aconfessionnelles, voilà, pleine conscience, vipassana, enfin, etc., 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 c'est que c'est très heureux, parce que ça permet justement déjà de reprendre le contrôle de son attention, de réapprendre la lenteur, de réapprendre le silence, de réapprendre certaines formes de sobriété, notamment par rapport au jeûne, par rapport à l'activité, etc., etc. C'est formidable aujourd'hui, c'est formidable par rapport à ces modes de vie de fou que j'évoquais tout à l'heure. Simplement, voilà, il se trouve qu'il y a exactement les mêmes recettes, méthodes, disciplines, solutions, chemins dans la tradition chrétienne. Donc ça, c'est le registre de la méditation aconfessionnelle. Et si on est un petit peu attentif, ou si on s'y plonge, on voit que dans toutes les traditions de prière, de méditation au sens chrétien du terme, il y a ces deux dimensions qui sont là. Les pères du désert, les jeunes disciples allaient les voir. Exemple, vous allez voir Abba Poemen. C'est un prénom qui est peu usité aujourd'hui, Poemen. Mais c'était le nom de cet Abba, de ce père du désert. Le jeune disciple va le voir. Apprends-moi à prier. Et il répondait, Abba Poemen répondait, assieds-toi, fais silence, apaise tes pensées. Il ne disait pas, dis un rosaire, mets-toi à genoux devant le Saint-Sacrement. Non. Assieds-toi, fais silence, apaise tes pensées. Donc il disait, en gros, tu te calmes, après on discute. Voilà. Et assieds-toi, fais silence, apaise tes pensées, c'est exactement le standard des 8 séances de la méditation de pleine conscience. Ni plus, ni moins. Quand on regarde la tradition ignatienne, c'est quoi les recommandations à la tradition ignatienne ? Tu définis un temps pour ta prière, tu prends un coin à peu près tranquille où tu sais que tu ne seras pas dérangé, tu t'installes confortablement, tu choisis un texte à l'avance pour ne pas passer quatre plombes, à savoir le texte que tu vas choisir, prendre 20 minutes si tu as pris 15 minutes d'oraison, trop tard, ça serait déjà fini. Et puis, voilà, tu te projettes dans la scène, dans la scène, par exemple, de l'Évangile, de façon justement à ce que tes pensées ne partent pas dans tous les sens. Tradition carmélitaine, on décrit exactement la même chose. Tu t'assieds, tu essayes de te calmer, tu rentres un petit peu dans ton souffle, tu es attentif à ton souffle. Et quand tu sens que tu es suffisamment apaisé, tu es assis, tu as fait silence, tu rentres dans le silence intérieur. Et alors, tu rentres dans ce commerce d'amitié, comme dit Thérèse d'Avila, avec ton créateur et qui est un ami, etc. Donc, en réalité, dans toute la tradition chrétienne, ces étapes psychophysiques, de s'asseoir, de faire silence, d'écouter son souffle, de ne pas se laisser embarquer par toutes les pensées, etc., 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 en fait, toute la tradition chrétienne le dit, mais comme toutes les sagesses, d'ailleurs, comme toutes les sagesses du monde. Simplement, comme on a fait totalement on a mis tout ça complètement en fait de côté. On nous dit, de mon point de vue, trop vite, prie, va au troisième registre. Sauf que si on prie alors qu'on n'est ni assis et qu'on a son portable, etc., etc., etc. Mais souvent, quand je vais à la messe, qui dure grosso modo une heure, combien de temps suis-je vraiment présent au Seigneur ressuscité? Peu. En fait, peu. Je ne suis pas présent une heure. Mon corps est présent pendant une heure en présence du Christ ressuscité. Mais en fait, je ne suis pas présent une heure. Ça n'est pas vrai. Parce que je pense à un truc, parce que machin, parce qu'il y a un truc qui me passe par la tête, parce que surtout, ne regarde pas ton portable. Non, tu ne vas pas le regarder parce que bon. Bon, c'est l'homélie, bon, comme l'homélie, c'est pénible. Je regarde. Bon. Voilà. Bon. Mais en réalité, vous voyez ce que je veux dire? En fait, combien de temps est-ce que je suis vraiment présent à ce qui est? Et là, en l'occurrence, voilà. Et donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que tel que moi je comprends cette appétence de nos contemporains pour ces méditations inconfessionnelles, c'est que ce qu'ils veulent, c'est déjà sortir de mode vie de fou, calmer en gros le psycho et le physique. Voilà, enfin les étages corps, psychisme. Dans la tradition chrétienne, ben finalement, il y a étape d'après, quoi, où il y a la couche encore plus profonde qui est notre couche spirituelle, et que ce noyau profond, c'est cette partie de nous-mêmes qui nous permet justement la relation avec celui qui nous donne la vie. Donc, quoi qu'on en dise, ce n'est pas du tout opposé, ce n'est pas complètement nul. C'est juste que pour accéder à cette couche profonde, il faut juste que je passe par mon humanité, par l'épaisseur de mon humanité. Il faut que je traverse l'épaisseur de mon humanité pour arriver à ce lieu de moi-même qui est visité, qui est le lieu en fait de la visitation. Il y a en moi le lieu de la visitation. C'est justement ce cœur profond. Et pour ça, il me faut passer par m'asseoir intérieurement, faire silence intérieurement et apaiser mes pensées. Ce qui ne veut pas dire ne plus penser à rien, c'est impossible ne pas avoir de pensée, mais ne pas me laisser embarquer par elles. Alors, c'est ça que je trouve très intéressant, et c'est là où, effectivement, il y a vraiment quelque chose à faire découvrir à nos contemporains, à vivre soi-même et à faire découvrir. C'est qu'il y a tout dans la tradition chrétienne pour embarquer à la fois la dimension, justement, psychophysique, celle du bien-être, celle de s'apaiser, mais aussi celle de s'ouvrir à plus grand que nous, quoi. Et c'est là où je suis convaincu qu'en réalité, prier, c'est, en fait, c'est pour moi, c'est deux choses. Et puis, du coup, j'en terminerai là parce que j'ai sacrément débordé. La première chose pour moi, prier, c'est s'exposer. C'est s'exposer. Enfin, on dit, il y a l'exposition du Saint-Sacrement. Et on va prier devant le Saint-Sacrement, devant la présence réelle. Très bien. Donc moi, je suis très heureux. Mais en fait, je pense qu'en réalité, dans la prière, j'ai plus ce sentiment que c'est à moi de m'exposer. De m'exposer justement à celui qui nous donne la vie, quoi. Et pour m'exposer, il faut que je me calme un peu, quoi. Et donc, j'ai besoin d'être aidé à m'asseoir, à faire silence, à ne pas me laisser embarquer par mes pensées. Et alors, je peux m'exposer. Et c'est là où j'ai besoin de cet organe extraordinaire qui est l'attention, qui est un organe, comme le disait Laurence, qui est un muscle. Donc, que j'ai à travailler. Et c'est ça que, justement, l'exercice de méditation de pleine conscience aide à travailler. C'est l'attention. Le bon méditant, le méditant entraîné, ce n'est pas celui qui n'a plus de pensée, ça n'existe pas. C'est celui qui se rend compte, par contre, un petit peu plus vite qu'avant, qu'il est en train de se laisser embarquer et qui, du coup, peut revenir. C'est bien pour ça que, autant dans la méditation de pleine conscience, que justement dans la prière, les grands saints, les saintes nous le disent, ne juge jamais ta prière. Et juge-la encore moins à la mesure des distractions que tu as eues. Parce qu'en fait, ce n'est pas au nombre de distractions. Au contraire, ce qui compte, c'est comment j'ai usé de ma vigilance et de mon attention intérieure pour revenir à celui sur lequel je vais porter mon attention, qui dans la prière est le Seigneur Jésus-Christ, en fait. Donc pour moi, prier, c'est m'exposer. Et la deuxième chose, moi en tout cas, qui m'aide à comprendre ce qu'est la prière, c'est en fait une réponse à cette invitation que Dieu nous lance. Dès le début de l'écriture, dans le livre de la Genèse, je crois que c'est au chapitre 3, mais je ne suis plus très sûr, mais je crois que c'est au chapitre 3, où Dieu demande à Yahvé, Yahvé demande à Adam, « Adam, où es-tu ?»« Adam, où es-tu ?» Ça, pour moi, c'est le verset qui institue la prière chez l'homme, chez l'humain. « Adam, où es-tu ?» Prier, c'est se mettre à l'écoute. Prier, c'est se mettre à l'écoute. Et donc, en fait, l'invitation qui nous est faite, c'est « Adam, où es-tu » Jean-Guillaume, où es-tu ? La plupart du temps, je suis nulle part. La plupart du temps, je suis nulle part. Je suis ailleurs, je suis partout. Mais combien de fois je suis réellement présent ? Et donc, pour moi, prier, c'est essayer pour une fois de me rendre un petit peu plus présent à cette invitation. Jean-Guillaume, où es-tu ? Voilà, donc j'en reste là. Et je vous invite à laisser résonner dans votre prochain temps de prière. Voilà cette invitation qu'on trouve dans Genèse 3. Voilà, Adam, où es-tu ? Merci.